Bonsoir à toutes et à tous, c'est Lighty et je vous souhaite la bienvenue dans l'Hebdoponie numéro 141. Avec pour le numéro de ce soir, un doubleur qui n'est pas sûr d'être présent dans la saison 7 et dans l'actualité, beaucoup de comics et des restes de la Toy Fair dans les produits dérivés, de la musique, de la vidéo et des comics fandom dans le fan média, un bêta test sur Friendship is Epic par le compositeur de la bande son du jeu dans la communauté, et enfin une preuve d'amour à Hollywood dans les news insolites. Passons tout d'abord à l'actualité avec un doubleur dont on ne savait toujours pas s'il allait être présent dans la saison 7. Il s'agit de John Delancey, et la réponse a été « je ne pense pas », en réponse à une personne lui demandant si on le retrouverait dans le cast du doublage. La réponse la plus probable est que les scénaristes n'ont peut-être pas de plan pour le personnage de Discord, et notamment que l'équipe souhaiterait se recentrer sur le main six, comme cela a été souhaité lors du communiqué de presse annonçant la saison 7. Après, à vous de voir, car il ne faut pas oublier que la saison dernière, il avait menti dans sa participation à la saison 6, où il avait déclaré qu'il n'était là pour un seul épisode, et qu'au final, il était crédité dans 3 des 26 diffusés. Passons un petit peu en zone spoiler avec le film de 2017 et sur ses chansons, car sur les 7, une d'entre elles est maintenant connue, enfin, du moins le début. Cela nous provient de la Toy Fair, dont Equestria Daily était présent à l'événement, et dont la traduction de l'article a été assurée par le Poney Blanc. Essentiellement, cette chanson pourrait être située vers le début du film. Bien évidemment, seules les 4 lignes de dialogue de la chanson sont connues, mais cela permet d'attribuer l'une des chansons au Main Six, ou plus exactement à Twilight et Spike. Il en reste encore une qui n'a pas encore été attribuée, puisque le reste sera chanté par des nouveaux personnages. Pour le reste des nouvelles, un autre synopsis a été dévoilé, mais ne nous en dit pas plus, sauf que le lieu où commencera le film ne sera pas, contrairement à ce qui a été avancé, à Ponyville ou au château de Twilight, mais plutôt à Canterlot. C'est pas grand chose, mais cela permet de mieux voir à quel endroit le moment perturbateur aura lieu. Passons du côté de la saison 7 avec James Asmus qui donne enfin la finalité du lien de l'arc From the Shadows à la saison 7. Dans les articles présents se trouve tout d'abord la preview longue du comics numéro 51 de la série principale, l'interview en intégralité à retrouver sur Equestria Daily, et enfin le lien comics-série qui a été traduit par le Poney Blanc. L'interview dans son intégralité revient sur le parcours d'Asmus, sur comment il est entré à IDW, ou encore comment il a écrit l'arc From the Shadows. Mais la partie qui nous obsède depuis que Asmus a lancé sa pie-bombe sur Twitter est le lien de la saison 7 avec le comics. Il a déclaré que le lien ne serait pas l'histoire en intégralité, mais plutôt le fond de cet arc, qui est donc le méchant de l'histoire, et toutes les questions avec les réponses que cela va donner et qui en découleront par la suite. C'est les réponses dans cet arc qui sera à raccorder à la série TV. Mais cela est un peu à contre-courant, car l'éditeur Bobby Kurnum avait donné une autre version qui était de faire le rapprochement des comics à la série, avec quelques références pour qu'au fur et à mesure de l'arc se retrouvent des liens directs qui se retrouveront dans la saison 7. Malgré que les deux prendront des virages différents à la fin pour éviter que les deux s'entrecroisent. Cela n'est pas très clair, mais ça tient quand même la route, car le numéro 53, qui est la conclusion de l'arc From the Shadows, sera publié en avril, le mois où l'opener de la saison 7 sera diffusé. Faudrait voir cela comme une aventure qui se passera entre les saisons 6 et 7, et dont certains éléments seront évoqués dans la saison 7. Mais la réponse va plutôt être donnée par les comics, et également la série. Donc, rendez-vous en avril pour voir la finalité de toutes ces déclarations. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du film de 2017 et de la saison 7, mais il y en a un qui est peut-être laissé de côté. Il s'agit des Equestria Girls. Mais heureusement, cet impair a été réparé, car on a appris que les 3 TV spéciaux Equestria Girls seront diffusés en été. Cela a été annoncé sur Twitter par le compte officiel d'Hasbro, lors d'une session de questions-réponses, et également aussi que l'exclusivité sera pour Netflix. On espère pour eux qu'ils ne vont pas se faire niquer une deuxième fois par Discovery Family, qui pour ceux qui s'en souviennent, leur avait piqué l'exclusivité de diffusion de Legend of Everfree une semaine avant qu'il ne soit diffusé sur la plateforme. Passons maintenant aux news conventions. Tout d'abord avec la BronyCon qui ajoute un invité dans sa liste. Il s'agit de Tony Flick. Ce dernier est connu pour sa participation en tant que dessinateur sur les covers des comics de la série. Il sera à cette convention qui aura lieu du 11 au 13 août à Baltimore. Puis vient après la TrotCon, qui eux annoncent la présence de Emma Larson, surnommée à juste titre Mr. Alicorn. Ce sera le maître des Alicornes et scénariste en chef de la première moitié de la saison 5 qui sera présent à cette convention du 14 au 16 juillet à Columbus dans l'état de l'Ohio. Vient ensuite l'Everfree Northwest qui eux n'annoncent pas d'invités, mais plutôt demandent des bénévoles. Si vous décidez de devenir bénévole, les avantages qui va se passer dans cette convention sont le week-end complet et tout frais payé de près de 70$, l'accès au salon personnel de la convention et au stuff exclusif concernant le staff de l'événement. Si ça vous intéresse, le lien vous emmènera directement à la page concernant les inscriptions. Quant à l'événement, elle sera prévue du 12 au 14 mai à Seattle, dans l'état de Washington. Passons du côté des conventions européennes, avec la convention CZ Equestria qui est annoncée pour les dates du 18 au 20 août. Cette convention sera programmée à cette date à Prague, en République tchèque. Pour l'instant, peu d'annonces ont été faites sur cette convention, mais cela va être mis en place dans les prochains mois. Donnons la conclusion sur les news conventions et l'actualité avec la Sipponicon qui donne 6 éléments à prévoir pour la convention. Car oui, la convention est dans 6 mois, et pour y aller, en plus du fait que ce soit en Asie, il faut y être préparé, et la convention avec ce communiqué va vous aider à préparer tout cela avec 6 points importants. Tout d'abord, le vol d'avion pour arriver en Thaïlande, afin de prendre le moins cher. Ensuite vient le moyen de locomotion pour la ville de Bangkok, et si possible à éviter de prendre la voiture à cause des bouchons. Après on passe au logement, car c'est important de dormir dans un hôtel. Puis après vient la nourriture et les restaurants à faire. Après vient l'admission à la convention, et enfin pour terminer, l'expérience d'une convention et les détails financiers qui vont avec. Si vous maîtrisez ces 6 éléments, vous pouvez être sûr que la convention de Bangkok du 19 au 20 août va bien se passer, car tous les éléments précédemment cités ont été réglés. Passons maintenant aux produits dérivés. On commence d'abord avec le comics numéro 51 sur le premier chapitre de From the Shadow qui est maintenant sorti. Il est sorti dans toutes les plateformes connues, mais il est surtout à déconseiller à ceux ne voulant pas de spoil. Et donc aussi à déconseiller pour les deux comics qui suivent, car ils seront probablement spoilers. On passe après au comics spécial Guardian of Harmony qui a déjà été publié en magasin. Alors, beaucoup de confusion a eu lieu autour de ce comic spécial, car de divers problèmes ont vu le jour, comme par exemple la sortie d'une preview qui était sortie quelques mois avant la sortie officielle de la preview. Également aussi les envois aux personnes le voulant qui a été retardé d'une semaine. Mais cette fois-ci c'est un autre souci qui nous intéresse, mais moins grave. Et que le comics s'est retrouvé sur les étagères de divers magasins, et qui est donc achetable maintenant. Par contre, le prix y est pas connu, enfin, pas encore été communiqué, afin de savoir si c'est moins cher de l'acheter en magasin que de l'acheter en ligne. On enchaîne après à une preview d'un comic spécial qui est apparu assez récemment et qui s'appelle My Little Pony Deviation. Alors, il s'agit d'un comic spécial où l'histoire de la série originale a entièrement été revue, à commencer par le personnage principal, qui n'est pas Twilight, mais une autre licorne qui n'a pas de talent. Quant à la sortie, elle est prévue pour le 8 mars. Revenons dans les comics de la série principale, avec le numéro 54 qui a eu sa cover et son synopsis de connu. Après l'arc sur l'histoire secrète d'Equestria et qui fera ouvrir la saison 7 dans des interrogations et donnera aussi la naissance à Legend of Magic, ce nouveau comics revient un peu aux aventures basiques et classiques, avec une aventure où Fluttershy doit s'absenter de sa maison et laisse Angel s'occuper de la ménagerie, ou plutôt du zoo de Fluttershy. Mais cela ne va pas être de tout repos pour les deux parties, notamment à cause du côté autoritaire du lapin. Le comics sera lui programmé pour une sortie en mai. Je viens d'énumérer Legend of Magic dans le point précédent, et bien intéressons-nous à cette série car le comics numéro 2 de cette nouvelle série a eu son synopsis et sa cover de dévoilé. Alors, pour ce deuxième comics, elle sera sur un deuxième héros de la légende équestrienne. Il s'appelle Rockouf et était considéré comme le poney terrestre le plus fort de tout le royaume, et doit partir en mission dans un volcan pour vaincre des créatures dangereuses. Ce deuxième comics éclaircit un peu mieux comment va être attaquée cette nouvelle série, avec la découverte de divers poneys ayant contribué à faire d'Equestria ce que nous connaissons actuellement. La sortie sera elle aussi prévue pour le mois de mai. Ça, c'était pour la série de comics qui va arriver en avril, mais parlons une dernière fois de Friend Forever, la série qui va devoir laisser sa place à Legend of Magic, car la cover alternative du dernier Friend Forever et qui a été dessinée par Andy Price a été publiée. Le comics est censé sortir, sauf changement, le 15 mars. Pour cette ultime cover sur cette série, elle est très axée sur la rivalité sur les deux sœurs, qui sera le thème du comics numéro 37. Mais à la voir, c'est presque à se dire qu'elles vont finir par s'étrangler entre elles. À voir la tournure que ça va prendre dans les comics. Passons des comics au livre avec un livre sur Legend of Everfree qui sera en vente en juin. Il a été listé par l'éditeur Hachette. Le synopsis semble indiquer que le livre se passera après les événements du 4ème opus du spin-off, car les filles devront revenir au camp Everfree après que des dégâts y ont eu lieu sans explication apparente. Le livre sera programmé à partir du 6 juin et aura près de 208 pages. Par contre, le prix y est encore inconnu. Ensuite, deux livres ont été listés pour le mois de mai. Le premier concerne une compilation qui sera le volume 12 de ces compilations qui regroupent les derniers comics sortis de l'arc Chaos Theory à From the Shadows, au moment où ce livre sortira, qui sera en vente le 7 juin. Quant au deuxième, il sera sur la saison 4 et adaptera en comics les événements à la télévision de Twilight Kingdom. Il est prévu pour une sortie le 21 juin. On enchaîne maintenant avec la peluche Starlight Glimmer de Bulle de Beer qui sortira en Australie le 9 mars. Cette peluche sera habillée d'un costume indiqué sur l'image en lien avec l'article. Il est également prévu que d'autres peluches suivent avec elle la direction de l'Australie pour y être commercialisées. Mais il n'est pas impossible qu'une sortie de ces dernières se fasse aussi aux États-Unis. Ouvrons la page Toy Fair qui n'a pas été complétée depuis la semaine dernière avec... Bon déjà, on va commencer déjà avec le résumé complet sur la Toy Fair de 2017. Ce lien, qui est sur la page live, sert à regrouper tous les articles concernant la licence My Little Pony présente sous toutes ses formes à la Toy Fair, que ce soit en tant que jouet, annonce et plus encore. On va rester quand même du côté de la Toy Fair parce que d'autres stuff et nouvelles y ont été publiées par-ci par-là. Tout d'abord, Funrise arrête les peluches et Funko ne prévoit pas de nouvelles figurines. Malgré que Funko arrive à bien vendre les figurines d'autres licences comme Batman, Marvel et plein d'autres, la question d'une autre vente de stuff MLP lors de l'événement de la semaine dernière a été posée, et la réponse a été que rien de nouveau ne soit prévu pour la licence. La porte reste donc encore ouverte pour Funko. Mais pour Funrise, la réponse est plus simple. Ils ont dû arrêter la production, car Hasbro, depuis le début de l'année, produit leurs propres peluches, et n'ont plus besoin des services de Funrise. Mais une autre société appelée Just Play s'est manifestée à la Toy Fair, et ont déclaré qu'ils feront de nouvelles brushables, mais destinées au film. Il y a eu un premier visuel sur l'article en question, avec une Pinkie Pie qui mesure 19 cm de hauteur, et qui coûtera 44,99$. Passe après à Kynex qui ont mis en valeur leur création lors de l'événement. Alors, pas de surprise, hein. Je vous avais déjà montré ces jouets il y a quelques temps dans divers hebdos. Mais ici, on en voit un peu plus en détail. Les figurines sont articulées et peuvent être démembrées. Les différents montages peuvent être facilement réalisables. Et, dans la hiérarchie, celui qui est la plus volumineuse est celle avec Twilight. Et celle qui est la plus petite est celle avec Applejack. Même dans les jouets, la hiérarchie est respectée dans le Main Six. Bon, après ce qui suit, contient dans divers articles divers stuff divers et variés, aussi bons que mauvais et aussi pas adressés aux brownies qu'aux petites filles. Tout d'abord, des porte-clés qui ont été faits par la marque Interplay, ainsi que des colliers. Ensuite vient, dans l'article suivant, un horloge aux couleurs des Main Six, des verres et des tasses. Et enfin, une sorte d'ensemble vaisselle, mais à les garder de plus près, ça ressemble plus à un ensemble pour jouer à la dinette. Puis vient après divers vidéos en vrac qui ont été faites sur les produits MLP, avec dans cette dernière se trouve le robot princesse Twilight Sparkle, des figurines qui tendent leurs sabots en appuyant sur la cutie mark, un poisson rose nommé Pinkie Pie qui se met à nager dans un aquarium, et enfin une peluche princesse Cadence avec la particularité de faire bouger les ailes de la licorne. Ensuite vient des lunettes de ski personnalisées à un personnage de la série, divers bibles qui pourraient être des bijoux comme des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et j'en passe. Et enfin, plus intéressant, une société appelée Decalomania a fait des autocollants qui permettent, grâce à la réalité augmentée, de faire apparaître des personnages de la série en vrai. L'application pour faire cela est disponible sur Android et iPhone, et il est probable pour ce dernier produit qu'il soit commercialisé au deuxième trimestre. Pour conclure cette page Toy Fair et la partie produits dérivés, on va s'intéresser à Gameloft, car durant la Toy Fair, une mise à jour sur le film a été montrée. Alors, sur l'image, hein, ce n'est qu'un écran avec une image du film, mais avec le logo Gameloft dessus. Il pourrait s'agir d'une future mise à jour permettant de mettre des événements du film et ses personnages exclusifs dans le jeu. Mais on en saura plus lorsque cette dernière sera remise en avant par Gameloft. Ouvrons la partie fan média avec tout d'abord la sélection musicale. Commençons tout d'abord avec un titre extrait de l'album A Change of Heart de Bronis for Good. Il s'appelle A Time That Once Was et le titre est assuré par Miles Kittner Piano. Cette piste est entièrement réalisée au piano et très belle et se veut rétrospectif, notamment sur la librairie de Twilight ainsi que les 6 ans du fandom et à tel point comment tout cela a changé. Puis on passe à Unravel de A Symphony of Two. Elle est classée en musique orchestrale. C'est une track assez mystérieuse avec des instruments à vent et à bois, puis accompagnée par des percussions en milieu de piste. Le tout pour donner un son qui pourrait coller à une aventure de Daring Do. Puis vient après Radiarc et son titre Wonder. Elle est classée elle aussi en musique orchestrale. Une ambiance douce mais mélancolique pèse sur cette track. D'autant plus que Radiarc a déclaré vouloir se mettre un peu en retrait de la commu musicale dû à son emploi et également à la difficulté de réaliser de nouvelles compositions. Encore une track classée en musique orchestrale avec le titre To Be Free de Coldcat. C'est un premier essai de l'artiste sur ce genre musical, et il a eu 2 mois de travail pour le finaliser. C'est un essai concluant, car cette piste nous transporte vraiment grâce au piano et à quelques tonalités avec des instruments à cordes. Vient après le titre Sweetness and Lightning de DGT. Elle est classée en musique chill out. Inspirée par un animé du même nom, et imaginez comment cet animé sera joué, mais avec du MLP. Malgré la présence d'échantillonnages vocaux de la série, elle fait plus musique d'ambiance, sans prise de tête, que titre à écouter attentivement. Après, on passe à un remix de Ghost Is B sur le titre A Changing Can Change de Danny Lingram. Elle est classée en hip-hop slash chill out. C'est une track ambiancée par le piano et la rythmique du hip-hop, mais dont le côté groove est la seule partie de ce genre à avoir été conservée. On reste dans le domaine du hip-hop, mais cette fois-ci en version glitch, avec le titre Out of Your Mind de Violet Pony en featuring avec Lyde. C'est une track très funk qui combine le côté groove avec des éléments contemporains, notamment dans la ligne de basse. On passe maintenant à de la house progressive avec Neon et son titre A Lovable Hurts. Elle a été faite sous 35 heures et est présente dans son album The Hurts Hooves. Et on y sent une pointe d'amour dans les notes jouées au synthétiseur. Ce qui est logique vu que le thème de l'album et de cette track est la Saint-Valentin. Passons au titre protagoniste de Skyrunner. Elle est classée en Drum and Bass. C'est une track qui fait suite à un de ses premiers titres qui s'appelait Antagoniste, qui ici est sur le final de la saison 6. Les effets sonores sont agréables et combinent des parties de percussion avec des échantillonnages efficaces. L'aide de Bang Pain et de AT lui a été bénéfique pour terminer cette compo. Parlons d'une des deux personnes qui a aidé Skyrunner. Bang Pain, qui a réalisé un remix qui s'appelle I've Been Dreaming of Sunshine and Celery Talk, qui a été fait à l'origine par I Blank to Apples. Elle est elle aussi classée en Drum and Bass. Ce remix est assez bon et paradoxal. En général, les sons Drum and Bass et Neurofunk sont sombres et tristes, voire dépressifs. Mais pas avec cette track qui mixe des parties neuro avec les percussions de la Drum and Bass, mais en mettant en valeur un tempo et une rythmique positive. Évoquons maintenant la deuxième personne qui a aidé Skyrunner, AT, qui a eu un de ses titres remixés par Progressive Element. Il s'appelle Alternate History. Elle est elle aussi en drum and bass, et c'est une track possédant des parties originales et nouvelles, et offre une autre expérience de cette piste pour un passage expérimental. The Light VIP avec Enyax en featuring avec Kutina est classé en dubstep et extrait de son EP sorti récemment qui s'appelle Night Watcher. La version VIP diffère de l'original, le premier se voulant une approche plus mélodique alors que la version refaite est sur un style frénétique et portée par certains moments par la voix de Kutina. Toujours dans la dubstep avec le titre Echoes of Everfree de Brian Venture. C'est une pièce assez creepy car elle traite d'une innée Fanon. Et si Fluttershy était la gardienne secrète de la forêt Everfree et qu'elle serait devenue folle en essayant de contrôler cette forêt. C'est l'impression qui domine au vu des différentes tonalités et de son dubstep pouvant vous mettre mal à l'aise, qui est présente sur cette track. Passons après au titre Winter Smash Up de One Track Mind. Elle est classée en Darkstep. Elle emprunte des parties de la chanson Winter Warp Up, mais qui a été acclimatée à une ambiance inquiétante, due au début à la présence d'une boîte à musique et d'un tempo step sombre pour le reste de la piste. Passons en revue quelques titres rock, avec tout d'abord le titre Faithful and Strong de Indie Note. C'est du rock acoustique. Cette piste est présente dans son album sorti récemment, Under the Equestria Skies. Elle concerne le secret de Bon Bon et de sa difficulté de le cacher aux autres et surtout à sa meilleure amie. Le genre rock reste présent, mais prend dans des tons acoustiques dus à la guitare acoustique omniprésente. Puis on passe à une cover de Fritzy Beat sur le titre Polychromatique de Turquoise Splash. C'est du pop rock et est une reprise d'une chanson vieille de 2012, mais qui est toujours dans l'air du temps, avec une guitare présente et un piano. Passons après à Prince Whateverer en featuring avec Caspou et Senra, et ensemble ils ont sorti le titre Between Fairy Tales and Happy Ending. C'est du soft rock. Elle est un extrait acoustique de Reinvent, l'album de Whateverer, sorti depuis plusieurs mois. Ce dernier a affirmé que les prochaines sorties concerneront l'album, mais il n'a pas prévu que des nouvelles compositions voient le jour prochainement. Vient après le titre Silence de Slighty Amis en featuring avec Captain Nate Evans. C'est du rock progressif. Une chanson hommage à l'infirmière Red Heart et de son combat au quotidien pour sauver des vies, malgré que la chanson traite également des sentiments sombres, comme l'infirmière devant affronter la mort qui peut être présente sur le visage de certains de ses patients. Enchaînons maintenant avec un titre aussi sombre qui s'appelle Death of the Drunker Dancer, Berry Punch Demise de Marseille. Elle est classée en rock alternatif, avec au chant Francis Weiss, Zad Slol à la guitare et Freewave pour le mixage. Cette chanson, elle aussi sombre et tout autant dramatique, traite d'une mort de Berry Punch par son addiction pour l'alcool. Pour terminer la sélection musicale, intéressons-nous au titre No Explanation de Tunalix. C'est du punk rock. Derrière ce pseudo se trouve une association de Francis Weiss et de Quicksilver, sur cette piste rythmée avec comme thème le Pinky Sense. Passons à la transition musique vidéo avec 3 vidéos. La première, faite par Mac Paponi, s'appelle Fight Song, Sung in MLP Voice PMV. C'est une ponification de la chanson Fight Song de Rachel Platten. C'est une chanson considérée comme une chanson de lutte avec le Main Six qui leur fait rappeler qu'elles ne font qu'une et qu'elles peuvent faire face à toute forme d'adversité, peu importe la menace. Cette vidéo est plus importante au niveau audio que visuel, malgré les paroles affichées sur la vidéo avec le personnage concerné. Puis vient après la vidéo All Stars But It's Sing by My Little Pony de The Scullivan. C'est une reprise par les personnages de la série de cette chanson du groupe Smash Mouth. Scullivan a affirmé que cette vidéo a été très compliquée à monter, car la chanson est très répétitive, et il a donc dû user de ruse pour éviter de mettre les mêmes extraits pour la reprise. Et enfin, pour terminer la transition, parlons de la vidéo Gabby Sauce en Pony Dub de Rabbis Bun. C'est une sorte de reprise de la chanson néo-disco Barbara Streisand de Duck Sauce, mais avec les Cutie Mark Crusaders et Gabby lors de la chanson Find the Purpose in Your Life. Le résultat est assez drôle, notamment le début avec Sweetie Belle. Passons plus en détail la sélection vidéo, tout d'abord avec Joe Cartoonist et leur preview numéro 2 de la vidéo The Contract de leur projet Choice. La preview de l'animation et de la chanson Trust in Me Child avec un degré d'animation avancé, et avec les voix qui sont maintenant incorporées à la vidéo. On en apprend mieux sur cette histoire du décès de Luna et de la tentative de Celestia de la sauver, avec l'aide de Discord. Et pour ceux qui ont des doutes, oui, je vous le confirme, l'animation va traiter d'un sujet qui fait débat, l'immortalité de Celestia et de Luna, ou comment elles l'ont obtenue. Passons après à une animatique qui s'appelle Who Are You Count de Stupid Flying Fox, qui a aussi de l'inspiration pour Inkpot. Cette vidéo illustre à tel point comment My Little Pony peut être aussi bien adapté au conte de Monte Cristo, et qu'une branche alternative à la série commence à émerger, comme ça l'a été pour Fallout Equestria. Cette vidéo a été faite image par image, avec certaines variantes d'animation, et a été réalisée comme pour un opéra rock. On passe après à une petite vidéo sympathique sur Celestia et ses apparitions des saisons 1 à 6. C'est une vidéo récap sur toutes les apparitions de la monarque d'Equestria dans la série. Et en plus, quand on analyse cette vidéo un peu plus près, on remarque que plus on avance dans les saisons de la série, plus on constate que les apparitions de Celestia se font de plus en plus rares. Puis on passe à du SFM avec Maelstrom qui a réalisé la vidéo Rainbow Dash How to Save a Life. C'est une animation 3D très propre qui a nécessité l'utilisation de beaucoup de logiciels, comme Audacity, Blender et plein d'autres pour la réaliser. La chanson est How to Save a Life du groupe The Fray. Puis on passe à Yoshi Greenwater et sa vidéo Derpy's Sketchy Valentine. C'est elle aussi une animation mais avec un autre style, comme Greenwater avait fait en test, mais quelque peu différent. L'histoire est faite sur un tableau avec Derpy dessiné en craie qui livre des mots d'amour au poney. T-Force, quant à lui, a sorti la vidéo My Little Menagerie Meme Ars Magic. C'est un sorte de recueil vidéo de divers mèmes et de choses drôles, et reste quand même aspiré par les Ponies Anthology. Passons après à l'animation Metal Gear Friendship de Brutal Weather. Elle est inspirée du final de la saison 6 et de Metal Gear Solid, et dont l'animation est quand même la plus proche de la série. Cette vidéo nous montre que dans le bric-à-brac de Trixie se trouve encore l'amulette des alicornes, et qu'elle le possède encore. Mais heureusement, Twilight du futur veille pour éviter une nouvelle catastrophe. Tridashi, quant à lui, a sorti l'animation Pinky Promise. C'est le fameux Pinky Promise qui est mis en valeur dans cette animation, au point tel qu'elle se greffera dans votre cerveau comme une tumeur cancérigène avec aucun moyen de guérison. Après, on passe à l'animation Speedy Ponies Slow Horse de Dr. Scrat. C'est une vidéo faite pour le fun, mais dont on ne comprend pas la finalité. Ou peut-être qu'il ne faut pas réfléchir avec cette dernière. Equestria's Dynamics de Alstif est elle aussi une vidéo faite pour le fun, mais qui est peut-être visionnaire, car elle traite d'un futur moyen de locomotion, qui peut être destiné aux brownies. Puis vient après l'animation Pinkie's Polka de Fitzy Not. C'est la vidéo pour les fans de Pinkie Pie, mais assez psychédélique et en même temps prise de tête, et avec la compétence de devenir un mème. Puis vient après un Total Elite Recap sur les shorts Rainbow Rocks par DWK. C'est la vidéo sur le résumé des différents courts-métrages qui mettent en place le film Rainbow Rocks, mais avec une vision dans l'analyse fait d'alcool et de drogue, et un peu de misogynie aussi. Enfin, pour terminer la sélection vidéo, parlons du live spécial 300 abonnés réalisé par le Coin Brownie. Elle a été faite hier soir, au même moment où aucune radio libre n'a eu lieu hier, donc c'était l'occasion pour la voir. Elle a été faite hier soir donc, et c'est la rediffusion pour ceux qui l'ont ratée, et elle revient sur la naissance de ce collectif, les différents projets, et j'en passe. Et elle est présentée par les membres francophones de cette dernière. Si vous avez 2 heures de temps libre, c'est la vidéo à voir pour cette sélection. Passons à la troisième sélection qui est la sélection Comics Fandom, tout d'abord avec Crisis Hostile Takeover de Omni 87. Lors de l'assaut de Chrysalis à Canterlot pour sa vengeance, les sœurs princesses étaient réjouies de la voir et s'attendaient même à vouloir être kidnappées. Les motifs, premièrement, être une princesse, c'est dur, et deuxièmement, la vie de princesse, c'est chiant. vient après un comics de Helmy qui s'appelle Workout. Aller dans une salle de gym permet de faire du sport et de se la péter devant les autres, ou encore faire de la drague. Thunderland en est adepte et veut plaire à Lightning Dust, mais il n'est qu'un petit joueur par rapport à l'ex-apprenti Wonderbolt. Puis on passe au comics Told You She Was Not Dead You Can See de Glimglam and Pals. Trixie hurle de terreur, ce qui fait intervenir Spike, qui découvre que Starlight s'est noyée dans la piscine du château. La seule façon de la sauver est de faire du bouche à bouche. Mais là encore, qui va le faire entre les deux ? Ensuite on passe à un comics de Princesse Fireshiner qui s'appelle Egghead's Talk. Sunset et Sightwai parlent de cours, mais Rainbow Dash commence à en avoir marre de les entendre, car les deux crânes d'œufs sont assurés d'avoir leur examen. Par contre, pour Rainbow Dash... Puis après, on passe à un comics de Doritos qui s'appelle Café Conundrum de la série Silly Lyra. Une discussion près de Lyra semble l'intéresser, mais comment faire pour s'y immiscer ? Ensuite on passe à Annie Ritchie Hart qui a dessiné Band of Boys. Spike fait un JDR avec Twilight, Applejack, Starlight et Fluttershy, et où elles doivent jouer un personnage masculin de leur entourage. Mais elles jouent plus avec leurs hormones que les vraies caractéristiques des personnages qu'elles incarnent. Puis on enchaîne avec le comics Hug Me Up Inside de Sparkonicus. Twilight est déçue d'apprendre que Rainbow Dash a oublié de lui faire un autographe de la part de Aka Irling. Par contre, elle n'a pas oublié de prendre un oreiller avec une Daring Do dessinée dessus. Qu'à cela ne tienne, Twilight décide de prendre cet objet en lot de consolation. Enfin, pour terminer la sélection Comics Fandom et la partie fan média, intéressons-nous à deux comics de Adorkable Twilight and Friends. Tout d'abord avec le comics Burning Love. Après avoir découvert que Sunburst est en rencard avec Roseluck, Starlight découvre que Spike a changé de parfum. Il sent certes mieux que le dragon, mais par contre, qu'est-ce qu'il sent fort pour les narines ! Et enfin, on passe au deuxième comics qui s'appelle Tiniest. Twilight trouve sa vie naze avec des journées dures à faire, mais heureusement, Spike sait comment la réconforter. Passons à la quatrième partie, qui est la partie communauté. Tout d'abord, on commence avec les résultats de deux sondages. Le premier sur la ponification des phrases, et la deuxième sur quelle maison vous voulez rejoindre parmi les choix, présentés ici. Alors, autant pour le deuxième qui est difficilement compréhensible et a le don d'être une private joke, le premier est plus intéressant, surtout au niveau des réponses, car curieusement, le premier dans le sondage est un non catégorique, alors que le oui, je le fais tout le temps, est en avant-dernier. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Le nouveau sondage actuel concerne les retours faits lors de la Toy Fair. Choisissez entre les jouets, les stuff alternatifs, le robot Twilight, ou mieux encore, les jouets sur le film, ou encore mieux, les news sur la saison 7. Passons maintenant aux questions-réponses traditionnelles d'Equestria Daily avec l'édition numéro 20. Avec, au programme de cette édition, les versions démon de Luna et de Sunset sont-elles de la même variété ? La raison de Starlight d'avoir été méchante est-elle terrible ? Ou encore, avec l'affirmation suivante, Putting Your Oof Down n'est pas le pire épisode de la série. Parlons un peu de jeux vidéo avec Battle Game Ponies qui a maintenant une nouvelle mise à jour de disponible. La mise à jour de ce mois-ci concerne des modifications de personnages, un pad virtuel et des corrections de bugs. Il a été aussi rapporté qu'un employé de Valve a souhaité discuter avec les développeurs afin d'aborder les dernières étapes de développement et les questions légales. À l'heure actuelle, le jeu est dorénavant un mashup MLP et Pokémon, dont les graphismes permettent de mettre en valeur le fait que le jeu ne fera pas de référence canon ou fanon aux deux licences. Pour ce qui est des problèmes d'ayant droit, Battle Game Ponies n'aura pas ce problème, car elle aura sa propre propriété intellectuelle, qui ne sera pas soumise à un cease and desist. On passe des jeux vidéo aux études avec Brony Studio qui donne un dernier coup d'accélération dans leur recherche sur le fandom. Ils ont l'intention de publier un livre sur ces recherches dans le fandom, qui a duré depuis 6 ans, et demandent à la commu de remplir un dernier sondage avant l'ultime publication. Cette enquête concerne la saison 6, les sentiments du fandom sur cette dernière, et la saison 7 à venir. D'autres questions ont été avancées, comme l'intimidation qui est présente contre les personnes aimant la série. Ils ont également été prévus d'être présents à la Bronycon, afin de parler de cette étude, et pourquoi pas, finaliser cela avec une future date de sortie. Enfin, pour terminer la partie communauté, on va parler encore de jeux vidéo, avec Jigro qui a eu l'occasion de se faire la main sur Friendship is Epic. Et bien la main, puisqu'il a fait une vidéo de 56 minutes, avec par contre aucun commentaire audio. Le jeu, alors où Ro a enregistré le bêta test, est encore en développement. Et malgré qu'il devait sortir en janvier, il n'en est rien, à cause de divers problèmes aussi bien personnels que professionnels. Deux problèmes ont été soulignés en vidéo, comme le saut de caméra qui vous fait revenir sur le bureau de votre PC, et le niveau 3 du monde 1. Ensuite, la version publique sera avec 3 personnages jouables et 4 niveaux, et le jeu sortira par étapes prédéfinies, avec de nouveaux niveaux et de nouveaux personnages qui seront dévoilés au fur et à mesure des mises à jour. Avec aussi le fait que ce jeu a commencé à être créé en 2014. Il sera également jouable avec des pads classiques PlayStation et Xbox, et sera entièrement gratuit. Et enfin, pour finir sur les données de la vidéo, le jeu a été fait comme un fangame japonais, qui s'appelle là-bas Doujinshi. Ce qui, en théorie, règle le problème des cease and desist, car la loi japonaise sur les contenus fanmade est plus tolérante que les lois américaines. Mais si cela venait à arriver, un changement sur les personnages, les noms et le reste qui fait mention à la licence My Little Pony sera fait pour éviter ce problème juridique. Terminons cette émission avec les news insolites, ou plutôt une photo insolite. Cette photo a été prise par le maître des effets spéciaux, Michael Bay. Et dans cette dernière, on y voit l'acteur Mark Wahlberg en train d'étreindre dans ses bras une peluche Rainbow Dash, qui ressemble quelque peu à celle qui se trouvait dans le dernier Transformers sorti. Ironie du sort, Michael Bay participe en ce moment à la réalisation du cinquième volet de la franchise Transformers, au cinéma qui prendra le nom de The Last Knight. Ce qui pourrait expliquer la présence de cette peluche, qui sera probablement utilisée pour une autre private joke durant ce cinquième film, comme il a été fait pour le précédent. Il est aussi amusant à noter que derrière Wahlberg se trouvent des éléments provenant du film MLP. Mais cela n'est qu'un détail. Ou peut-être pas, car il y a peut-être des chances que Wahlberg soit peut-être intéressé pour un doublage dans la série. Ou peut-être Wahlberg ou Michael Bay. Bah quoi, on peut le rêver quand même. Shatner a eu bien droit à un doublage dans la série, prochainement. Pourquoi pas eux ? Et c'est sur cette preuve d'amour que se termine pour ce soir l'Hebdo Pony numéro 141. Merci de votre écoute et rendez-vous dimanche prochain pour l'Hebdo Pony numéro 142. Et également pour samedi prochain à 21h avec une nouvelle édition de la Radio Libre. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne écoute sur Radio Brownie.